Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour commenter, débattre avec vous. Vous connaissez le numéro 0826 300 300. Vous savez, vous pouvez nous joindre et commenter également avec vous, avec nous, et commenter évidemment tout ce dont nous parlons aujourd'hui pour débattre. Sophie de Menton, bonjour, chef d'entreprise,
bonjour.
Présidente du mouvement éthique, bonjour à vous. Vous allez bien?
Très bien, confiné. Et vous?
Eh bien oui, aussi.
J'en ai marre.
Bon, on a Alexis Poulain avec nous également. Bonjour Alexis.
Bonjour Valérie, bonjour tout le monde.
On vous retrouve le matin également, le lundi matin, dans l'émission, dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Également avec nous, François Monboise, président de la FEVAD, Fédération Européenne de la Vente à Distance. Bonjour François, vous allez bien?
Bonjour, oui, ça va.
Ça va, bon. Et puis Karl Olive, bonjour.
Bonjour Valérie.
Vous êtes maire de Poissy. Merci d'être avec nous. Que ça se passe comment chez vous?
Je suis confiné dans mon hôtel de ville, comme tous les jours.
Vous êtes confiné, voilà, et dans votre ville.
Ah, les maires sont confinés. Moi, je pensais que les maires pouvaient se promener. Je me disais, quelle chance. On est obligé d'aller surveiller la commune. On se promène, non?
Ah, on est plus que jamais, pour le coup, des sentinelles de la République, comme j'aime à dire. Et c'est pas une mince fierté, parce que on se rend compte que on est en quelque sorte des centrifugeuses où tous les habitants, les partenaires, les chefs d'entreprise, le monde hospitalier passent par nous pour tout simplement avoir des renseignements. On est dans le miroir et dans le service, un peu pour comme ce que vous faites, Valérie.
Allez, déconfinement, a-t-on vraiment les moyens de déconfiner? Cette question autour de la date du 11 mai, quand on entend le Premier ministre hier, beaucoup de questions autour de cette intervention. Je rappelle que vous étiez près de 8 millions hier, rien que sur France 2 et TF1, à 17h, à suivre cette intervention du Premier ministre, du ministre de la Santé également, qui ont donné des précisions, mais sans vraiment en donner. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux, on a pu voir des réactions assez critiques. Et puis, on pourra aussi se poser la question des restaurants, les restaurateurs qui demandent à ce qu'on rouvre les restaurants. Qu'en pensez-vous? On va commencer avec un tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Sophie, c'est un coup de cœur.
Oui, moi j'ai un coup de cœur. Alors je n'en peux plus, mais franchement, de l'angoisse que génère ce coronavirus, oui, il faut en parler, oui, on en parle, mais je crois que la souffrance psychique et morale d'entendre ça toute la journée avec le décomptage des morts, c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que voilà, il y a trop de communication. Mais c'était une parenthèse. Moi, j'ai un coup de cœur donc pour remonter le moral. C'est formidable parce qu'il y a une start-up qui s'est alliée avec une plateforme de streaming qui s'appelle Molotov. Et comme il y a un confinement, vous le savez, de 12 millions d'élèves qui sont forcés de suivre leur programme scolaire, au moins jusqu'au 11 mai, voire beaucoup plus tard, ils ont fait une solution alternative privée. J'aime beaucoup le mot privé. Et ils offrent gratuitement une chaîne complète accessible sur la plateforme Molotov, une offre gratuite avec des programmes télé qui sont transformés en outils pédagogiques. Il y a des contenus télévisuels qui sont pour les enfants, pour les adolescents, des documentaires, des programmes scolaires corrélés. Ils peuvent illustrer le parcours, le cursus scolaire en fait d'une autre façon. Ils sont organisés par classe et par thème. Ça va de la maternelle jusqu'aux étudiants. Et je trouve ça génial. Et je voudrais en profiter pour répéter que la solution viendra des entreprises. Et le Premier ministre hier, certes, je ne sais pas s'il y a des questions encore, parce qu'il est resté 2h30 quand même, donc on pourrait imaginer qu'il ait répondu à tout. Mais on ne cite pas tout ce qui se passe et le fait que ce sont les entreprises qui contribuent, qui créent, qui fournissent les masques, qui commandent pour leurs salariés.
On va y revenir. Vous êtes on va y revenir. En tout cas, c'était un coup de cœur à Molotov, effectivement, pour nous dire un petit peu ce que qu'il y a des programmes éducatifs qui sont bien. Karl Olive.
Valérie, moi, c'est plutôt un coup de gueule contre la CGT, qui a encore raté à la fois l'occasion de se taire et raté surtout l'occasion de faire une belle action. Je m'explique. Ouais, depuis le début du mois de mars, l'entreprise PSA a décidé d'assembler un certain nombre de pièces pour créer des respirateurs qui sont très utiles, évidemment, pour notamment là, les services de réanimation médicale. Pour ce faire, il y a eu un appel au volontariat, APSA Poissy, et plus de 100 salariés volontaires, alors qu'il y en avait besoin de 60 au départ, ont dit « Ok, nous on y va ». Tous, sauf le syndicat CGT, qui encore une fois fait du dogmatisme, là où on pourrait faire du pragmatisme. Il y a 10 000 respirateurs qui vont être créés d'ici mi-mai. C'est l'occasion de tirer un coup de chapeau, évidemment, à PSA, qui sait faire nation, comme le dit le président de la République. Et je voudrais dire à la CGT que avoir la foi et monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier, c'est pas de moi, c'est de Martin Luther King, mais je trouve que ça va bien sur la situation.
Oui. Merci de dire ça, parce que c'est la honte du syndicalisme français qui a eu lieu. Alors, la honte du syndicalisme français, je pense qu'ils sont discrédités. Ce qui serait bien, c'est qu'ils soient discrédités à vie.
Bon, c'est dit. Les autres, François Monboise, vous voulez réagir? C'est vrai, je ne vous demanderai pas de réagir, François, sur le sujet, mais on a eu un petit peu la même chose chez Amazon, où quand même des salariés demandent la fermeture. Alors, je suis loin d'être une défenseuse, comme on dit, un défenseur d'Amazon, mais des salariés qui demandent la fermeture de leur entreprise, c'est quand même du jamais vu. Donc voilà. Et moi, j'en profite pour un petit peu rebondir sur votre coup de gueule, Karl Olive, pour la Poste. On l'a déjà fait. Alors, je sais, on va nous dire, vous avez qu'à y aller, etc. Mais il faut rappeler quand même que le service public de la Poste est celui où il y a le plus de droits de retrait, c'est-à-dire près de 60% des salariés. C'est un service qui est utile en ce moment et ne fonctionne pas. On se pose la question. Alors, on a vu Olivier Besancenot aussi intervenir sur le sujet, mais je ne comprends pas que la Poste soit le service public qui soit le plus dégradé aujourd'hui.
Valérie.
Quelqu'un veut réagir? Oui, Karl Olive.
Alors, sur ce sujet, je suis bien placé puisque, effectivement, au début du confinement, sans aucun échange avec la ville, avec la mairie, la Poste a décidé de fermer son agence bancaire dans l'un de nos quartiers populaires, fréquenté par 8000 habitants, excusez du peu. Avec, indirectement, l'idée de dire, toutes ces personnes-là, et notamment au début de mois, vont aller chercher leur mandat CAF, etc., dans la Poste qui reste principale en centre-ville. C'est-à-dire en total dysfonctionnement par rapport aux distanciations sociales, même si le professionnalisme, Valérie, des agents de la Poste n'est pas à démontrer. Et il a fallu se battre avec la direction nationale, avec le ministre de la ville, pour obtenir la réouverture aujourd'hui, vous ne croyez pas si bien dire, on est en pleine actualité, pour que mes administrés des quartiers populaires puissent, comme tous les autres, bénéficier de ce service public. Bon, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Là, en l'occurrence, je m'en félicite et pour le coup, je les remercie.
Et il y a même leur filiale Chronopost qu'on appelle maintenant Chronolost, qui veut dire perdu en anglais. Et effectivement, en plus de ça, rien n'arrive, ça arrive mal. On a délégué au privé, mais même qui est saturé. Et c'est un drame en région, partout, pour les masques qu'on envoie, nous, chefs d'entreprise, qu'on envoie déjà à nos salariés, etc. C'est un drame.
Oui, vraiment absolument. Pas bien. François Monboise, c'était un coup de cœur.
Oui, coup de projecteur, disons. Ben, ça illustre le point dont vous discutez, qui est la contradiction entre vouloir continuer à travailler et puis vouloir appliquer les gestes barrières. Le coup intéressant, c'est que les librairies vont sans doute rouvrir le 11 mai, ce qui est une très bonne nouvelle, les librairies indépendantes. Alors, il faut savoir quand même que les librairies avaient refusé d'ouvrir. C'est-à-dire, quand il y a eu la définition du gouvernement mi-mars des commerces qui allaient rester ouverts et pas les autres, à partir du moment où le e-commerce continuait de pouvoir vendre, le gouvernement a dit aux libraires, mais il faut que vous puissiez vendre aussi. Et à l'époque, les libraires ont refusé, au nom de la sécurité, au nom des mesures barrières, etc. Et je pense qu'ils s'en mordent les doigts, parce qu'en période de confinement, les gens ont besoin de livres, et la seule solution pour acheter
éditeurs,
un livre...
Les éditeurs, c'est catastrophique pour les éditeurs.
Oui, enfin, mais les
éditeurs,
aussi.
C'est les libraires, c'est les consommateurs aussi. C'est bien
et donc, les libraires vont rouvrir, mais je trouve que ça illustre bien toute l'ambiguïté qu'on a. C'est-à-dire, d'un côté, et vous en parliez à propos de certains syndicats, on veut avoir des mesures barrières totales, et sinon, on refuse de travailler, mais de l'autre côté, il faut bien travailler. Et donc, je crois qu'il faut qu'on s'habitue tous à travailler différemment, et c'est plus compliqué pour tout le monde, c'est évident.
Sauf qu'on avait les maisons de la presse ouvertes, heureusement ouvertes, les maisons de la presse qui, la presse allait déjà très mal, mais ils ont été courageux, un grand coup de chapeau aux kiosquiers. Mais donc pourquoi, par contre, les libraires, on comprend pas.
Ben, si, si, les libraires, moi, alors moi j'étais sur la même ligne que vous, et en fait Gérard Collard m'a expliqué que c'était, donc ce libraire qui travaille avec moi depuis une vingtaine d'années, que c'était extrêmement compliqué de garantir la sécurité des employés, qu'une librairie est un endroit où on reste, où on flâne, où on touche les livres, où on les retourne. Donc il y avait vraiment dans une librairie, et c'est vraiment lui qui me l'a expliqué, un problème de gestes barrières très difficile à faire respecter.
Bah, mais juste pour.
Il y a moins de livres, Sophie. Valérie, que vous avez prononcé, c'est le mot garantie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte, et c'est ce qu'a très bien dit de Flessy à l'Assemblée nationale, le président de la commission scientifique, qu'on va prendre des risques. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas garantir aux gens qu'ils ont zéro risque de contamination en allant prendre un transport en commun, en allant travailler, en envoyant leurs enfants à l'école. Mais on va minimiser les risques au maximum, mais on ne peut pas dire « je garantis qu'il n'y aura aucun souci » parce que c'est pas possible. Et ça, c'est difficile parce que c'est pas notre culture.
Les libraires s'étaient organisés, alors on revient à mon coup de gueule sur la poste, les libraires s'étaient organisés pour envoyer des livres par la poste. Or, c'est devenu impossible parce qu'il n'y avait pas, de livraison, parce que les boîtes aux lettres, ils ne voulaient plus sonner aux portes, donc ils ont été obligés d'arrêter cette expédition. On ne vous a pas entendu, Alexis Poulain, sur les différents sujets. L'attaque de la CGT, ça vous a heurté?
C'est leur boulot. Non, après, eux, ils ont un mandat. Hein. C'est être représentant des travailleurs et dire, voilà, si les conditions de sécurité ne sont pas respectées, c'est à eux de le dire. Après, évidemment, on va toujours dire c'est l'ennemi de l'intérieur, c'est le danger. Les antisyndicalistes vont dire que le syndicat, c'est le mal. Mais non, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur en vouloir. Pour ce qui est des librairies, oui, ce serait une bonne nouvelle qu'effectivement, elles ouvrent à nouveau parce que c'est important. Mais effectivement, la clé de cette crise, c'est qu'en fait, on va devoir vivre avec ce virus. Donc, ça sert à rien de rester confiné ad vitam aeternam. Là, on est devant un cas d'école assez incroyable. C'est-à-dire que sur ce premier pic épidémique, ce premier plateau épidémique, la réaction initiale a été on va voir finalement si on peut tenir avec une infection de la population. Finalement, non, les chiffres auraient été trop terribles. Donc, on confine. Mais on se rend compte que confiner, ça veut dire assurément une crise économique beaucoup plus grave qu'une crise sanitaire en réalité. Et c'est déjà le cas dans les quartiers populaires où vous avez plus de des milliers de personnes qui vont à la distribution de soupes populaires parce que sans travail, impossible de nourrir. Oui, juste avant.
C'est ce dont on a parlé.
Et c'était mon coup de gueule d'ailleurs. C'est sur ce phénomène des quartiers populaires qu'on ne voit pas, mais qui eux sont en train de préparer une crise bien pire que sanitaire. À la fois nourriture, sur la santé, sur les loyers, sur l'éducation. Et on va se focaliser, bien sûr, sur les émeutes qu'il y a eu, parce que c'est vraiment des zones de non-droit, mais à plein d'étages. C'est-à-dire qu'hier, quand même, il y avait 18 villes, de Villeneuve-la-Garenne à Gennevilliers, en passant par Mulhouse, Sevran, Aulnay, Villepinte, Fontenay, Suresnes, Satoin, enfin, on peut y aller, où il y a eu des émeutes. On est en train de vivre
soyez. On va y revenir, mais soyez un petit peu juste, ouais. Alexis. C'est pas des émeutes de la faim. Enfin, faut pas.
Mais pas du tout. Mais attendez, c'est là où je veux en venir.
Quel lien vous faites avec ça?
Je fais un lien sur le fait que là, on a des territoires qui n'ont rien à voir avec le reste du pays. Où là, on a des situations qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que on demande aux gens de respecter le confinement. Dans ces quartiers, on a vu que la directive du ministère de l'Intérieur, c'était « c'est pas grave, laissez faire, on verra plus tard ». Le plus tard, il est là. Aujourd'hui, on est dans une situation à quelques jours peut-être de ce qu'a été 2005. Les émeutes dans les banlieues. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous rajoutez ça à la crise sanitaire, je ne vois pas comment on peut tenir, ni les forces de l'ordre peuvent tenir. Donc le coup de gueule, il était là sur le fait que je ne pense pas qu'on met le paquet, et pas seulement sécuritaire, mais sanitaire, dans ces quartiers particuliers où les situations vont être catastrophiques si on ne fait pas l'effort qu'il faut pour justement éviter le pire. Parce que sans travail dans ces quartiers-là, ça ne tient pas. On ne peut pas payer un loyer, on ne peut pas payer de la nourriture. Enfin, ce n'est pas possible, quoi.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va revenir sur le discours du président de la République, puis on va revenir sur ce qui s'est passé effectivement dans plusieurs banlieues en région parisienne et je crois à Lyon également, des tensions entre habitants et forces de l'ordre assez peu évoquées dans les médias. Et je voulais qu'on en parle avec vous, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour le 10h midi, oui, j'ai dit le discours du président, c'est évidemment le discours du Premier ministre. Je voulais vous lire la réaction de Claudine également, qui nous dit, mais il n'y a pas que les quartiers populaires, il y a aussi des gens qui sont en campagne, qui n'ont pas accès aux services publics, comme la Poste justement, et aussi à des frais supplémentaires avec des enfants à la maison. Le problème, c'est que la campagne, tout le monde s'en fout, vous avez totalement raison Claudine, la campagne, parlons aussi de nos campagnes qui rencontrent exactement les mêmes problèmes. Je voulais qu'on revienne sur ce qui s'est passé effectivement à Villeneuve-la-Garenne. Des tensions entre habitants des quartiers et forces de l'ordre ont à nouveau éclaté dans la nuit de dimanche à lundi. On rappelle qu'il y a eu un homme, parce qu'on ne peut pas parler de jeune, il a 30 ans, qui a été accidenté. Alors les versions, je fais attention aux mots que j'emploie, parce que pour certains c'est une bavure policière. Pour les forces de l'ordre, il roulait sans casque à vive allure, il est tombé et il est arrivé sur la voiture. Enfin, à la limite, j'ai envie de dire, là-dessus, on ne fera pas la lumière, mais en tout cas, des incidents qui éclatent régulièrement dans ces banlieues entre les forces de l'ordre et les policiers, entre les forces de l'ordre et les habitants. Alexis Poulain, je crois que vous vouliez en faire votre coup de gueule, oui. D'ailleurs.
Ben oui, c'était en fait, c'est pas normal qu'on en arrive là. C'est-à-dire que on est dans une période de confinement, on demande aux gens d'être responsables, et là, vous avez quelqu'un qui faisait un rodéo, comme vous dites, qui a une trentaine d'années, qu'ennuyait les riverains, et donc la police arrive, et on ne sait pas les circonstances. Et tout de suite, ça s'enflamme parce que les versions sont contradictoires. L'une dit que c'est un policier qui a ouvert la portière pour le faire tomber. L'autre dit qu'il a perdu la jambe. Il n'a pas perdu la jambe. Il a été opéré. Il avait une fracture ouverte. Le policier se défend d'avoir ouvert la portière en disant oui, je l'ai ouvert, mais c'était pour sortir. Pas pour le faire tomber, mais la réponse directe, c'est quoi? C'est un embrasement général et c'est on attaque les forces de l'ordre et c'est une guerre de tranchées entre des forces de l'ordre et des habitants de ces quartiers qui décident de faire une émeute. Et cette émeute-là qui fait écho à plein d'autres villes et on se rend compte que 18 villes font ça et que c'est pas seulement hier soir, mais c'est répété. C'est-à-dire
oui,
que
ces attaques
vis-à-vis des pompiers, vis-à-vis des forces de l'ordre dans les quartiers, on s'y est habitué. Mais c'est pas normal. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on s'est habitué à cet état de fait, qu'on n'a rien fait pour en changer. Et aujourd'hui, en plein confinement, on se rend compte que c'est carrément délirant. C'est-à-dire qu'on vit des réalités parallèles, des réalités totalement différentes. Et là, quand on parle de territoire perdu de la République, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on est loin dans ce qui est la réalité des campagnes ou d'autres, où là, on vit effectivement le confinement de manière difficile, que ce soit pour l'approvisionnement, la nourriture, le travail, etc. Mais on n'a pas ces effets de foule qu'on peut avoir dans les quartiers. Mais là encore, je pense pas que la réponse ne peut être que sécuritaire, parce que ce serait une impasse. Et puis on n'a pas les moyens, on va pas envoyer l'armée, on va pas, voilà, ces moyens qu'on mettrait sur la table, c'est illusoire. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse, parce que la casse c'est bien là. Je parlais à un policier
qui est responsable,
qui est responsable, c'est les gouvernements depuis 2005 qui ont dit ah oui, les grands plans banlieue, on les voit venir, mais c'est jamais que des chiffres annoncés en l'air. Au final, il n'y a rien sur le terrain.
On est dans le concret. On a donc un confinement. On a un mec qui a 30 ans qui était en contrôle judiciaire. La police a été appelée à de nombreuses reprises pour des rodéos. Le mec roule sans casque avec une moto trafiquée, etc. Donc on fait quoi? Enfin, moi, je veux bien toutes les excuses. Enfin, je sais pas, peut-être que Karl Olive peut, en tant que maire de Poissy, ce que vous pensez de ce type de comportement.
Alors, je rejoins ce que dit Alexis Poulain, c'est que, bien évidemment, ce type de réaction, elle n'est pas inhérente seulement au confinement et depuis un mois et demi. C'est une latence qui date depuis bien, bien des années. Et il y a deux choses. D'abord, pour rejoindre ce que dit Valérie, la loi, c'est la loi. On est là pour l'appliquer, pas l'interpréter. Les règles, tout le monde les connaît, y compris celles et ceux qui parfois, je ne généralise pas, je suis né dans les quartiers populaires à Poitiers. Et j'ai grandi avec les quartiers populaires, je continue d'y habiter. Qui parfois vont provoquer volontairement, et y compris la police nationale. J'ajoute qu'il y a une enquête de l'inspection générale de la police nationale, donc évidemment, on présage de rien. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrête aussi à un moment donné de stigmatiser ce qui se passe dans les quartiers. Et pour arrêter arrêter de stigmatiser. Il faut aller à la rencontre des acteurs du quartier et ne pas en avoir peur. Parce que d'abord, tout le monde est chez soi et qu'il n'y a pas un millimètre de l'espace public qui n'appartient pas à la République. Mais pour cela, il faut aussi être dans un contrat gagnant-gagnant de confiance. À partir du moment où on est dans un contrat gagnant-gagnant de confiance, je ne dis pas que ça permet de tout gommer, je dis que les choses sont un petit peu plus facilitées. Je vais vous donner un exemple pour abonder mon exemple, pour abonder ce que je viens de dire. Vous le savez, on a dans quelques jours, le 24 avril, le début du Ramadan. Eh bien, comme je l'ai fait avec les amis catholiques, je me suis appuyé sur les représentants du culte musulman pour voir comment nous allions appréhender ce qui va se passer au moment du Ramadan, parce que lorsque on rompt le jeûne, il y a une rupture de jeûne, parfois il y a des rassemblements, et évidemment qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement en période de confinement, idem pour les prières parfois sur l'espace public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument continuer à discuter, à aller échanger, à aussi tendre la main à un moment donné, mais dans le cadre de contrats gagnant-gagnant, sous forme de contrats d'objectifs et de moyens. Et quand je creuse un petit peu avec les collègues de gauche comme de droite, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'obédience politique sur le sujet, on s'aperçoit que souvent, on reçoit finalement ce qu'on a fait ou pas fait. Et il me semble, et là je rejoins enfin ce que disait Alexis tout à l'heure, que quand pendant des années, on a passé de son temps à stigmatiser, à simplement aller dire ça y est, c'est encore la faute des Arabes, etc. Et ben, ça, c'est une caricature qui a eu ses limites. Et Dieu sait si moi, dans ma ville de 40 000 habitants, avec trois quartiers populaires, on pourrait avoir des difficultés. Bah, simplement, on est sur le terrain, on passe sa vie sur le terrain, et on n'a aucun état d'âme, que ce soit dans les quartiers populaires, en d'autres quartiers, parce que la loi, c'est la loi, rien que la loi. On est là pour l'appliquer, pas pour l'interpréter. Mais tout le monde et tous mes administrés connaissent les règles.
Ouais. Non, mais écoutez, franchement, on ne peut que vous tirer un coup de chapeau. Je suis sûre que vous avez réussi, tant mieux. Vous parlez comme si tout le monde était...
Je dis pas ça, Sophie. Hein.
Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ces quartiers, quoi qu'on fasse, quand les pompiers peuvent même pas venir, quand ils tirent à coups de mitrailleuse, je veux dire, il y a un moment où on peut pas dire, ah ben il y avait cas, d'abord, de toute façon, c'est fini, on ne pleure pas sur le lait renversé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est épouvantable, il ne reste plus absolument rien, ni la police, ni le confinement, ni quoi que ce soit. Les seuls qui sont vraiment bien respectueux de tout, c'est des trafiquants de drogue, parce qu'ils sont parfaitement équipés. Je veux dire, on ne peut pas dire ça, et il faut arrêter avec ce terme de stigmatiser. C'est insupportable. Dès qu'il se passe quelque chose, on stigmatise. Ben non, c'est pas de la stigmatisation, c'est la réalité. Ce sont des quartiers qui sont montrés du doigt, parce que il y a dans ces quartiers des gens formidables, des gens qui travaillent, des mères désespérées qui ne savent pas comment élever leurs enfants et quoi faire, des grands frères qui tiennent le quartier. On n'y arrive pas. Bon. Alors, moi François, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on fait ?
François Monboise ?
Moi, je sais certainement pas ce qu'il faut faire. Hein. Je pense que c'est des gens comme le maire de Poissy, effectivement, qui sont à même de gérer ça au quotidien, et c'est pas facile. Mais ce que j'ai lu de cette affaire, c'est malheureusement ce qu'on a effectivement déjà vu des dizaines de fois. C'est-à-dire un accident de la circulation tragique avec une voiture de police et des jeunes, entre guillemets, et aussitôt des accusations de racisme et des banlieues qui s'enflamment un peu partout, avec un décompte un peu comme un match de foot sur Twitter ce matin, 18 villes, genre 18 villes déjà, etc. Donc c'est pas facile. Ce que j'ai lu, c'est que le confinement aggrave les choses, effectivement, parce qu'il y a moins d'argent qui rentre par le trafic aussi, hein. C'est vrai, soyons clairs. C'est-à-dire que les acheteurs ne vont plus acheter de la dope au bas des immeubles, et donc il n'y a pas d'argent, et quand il n'y a pas d'argent, les situations sont désespérées. Vous avez tous vu la photo épouvantable, enfin effrayante, à la une du Monde, de la queue de gens pour des soupes populaires à Clichy, je crois. Hein. Il y avait 200 mètres de gens qui allaient pour avoir des légumes pour manger. Donc c'est dramatique, mais je ne sais pas quoi faire malheureusement.
Merci à vous pour cette première partie. On se retrouve dans un instant et on revient donc sur le discours du Premier ministre. Est-ce qu'on est prêt pour le déconfinement le 11 mai? Est-ce que vous avez appris des choses dans cette intervention? Pourquoi cette date du 11 mai? Moi, c'est la question que je me pose ce matin. Eh bien, écoutez, on vous attend. 0826-300-300. À tout de suite avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. Déconfinement, est-ce qu'on a vraiment les moyens de déconfiner aujourd'hui? Pas de masque, pas de test, pas de notion vraiment de savoir quelle est l'immunité des Français. Le Premier ministre donc, a confirmé que l'après 11 mai passerait par le port du masque, par des tests, par l'isolement des personnes contaminées, que le plan complet sera présenté à la fin du mois. Drôle de conférence de presse hier. Sans journaliste, enfin, il y avait un journaliste, une journaliste précisément, et puis pas beaucoup de réponses. Donc déjà, peut-être une première question, c'est est-ce qu'il a eu raison d'intervenir pendant près de 2 heures hier pour nous dire, allez, je vais être un petit peu ironique, de tousser dans son coude et de maintenir les gestes barrières. François Monboys, comment vous l'avez ressenti?
C'est inhabituel, c'est effectivement inhabituel parce qu'il n'a pas apporté des solutions toutes faites qu'on peut reprendre dans des dépêches rapides. Mais pendant 2 heures, il a essayé d'expliquer que c'était compliqué, qu'il allait falloir que les solutions viennent de chez les gens, de tout le monde, que c'était inhabituel. Et la première question d'une journaliste, ça va être est-ce qu'on pourra continuer à partir en vacances? Donc c'était un peu surréaliste. Et ça montrait que ces 2 heures étaient pas inutiles. Moi, ce qui me frappe, c'est que je pense que les solutions, maintenant, elles doivent venir de chaque entreprise, de chaque ville,
oui,
de chaque école.
Oui.
Et il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que c'est pas même toutes les qualités qu'a M. Blanquer, c'est pas lui qui va dire dans les écoles de Poissy comment faire. C'est M. Olive qui va devoir discuter avec les directeurs, directrices d'école et voir à chaque fois ce qu'il faut faire. Et c'est épouvantablement compliqué, c'est évident. Et ce que je retiens, ce qu'il a dit, c'est que c'était un début. En fait, c'est le début du retour à la vie, pas normale, mais à une vie plus normale.
Ouais. Sophie,
je pense, oui. Franchement, vous allez dire que je plaide pour mes paroisses, mais non, mais c'est vrai que les entreprises ne sont pas assez mises à contribution. Elles le font elles-mêmes. Elles s'y mettent. Le nombre d'entreprises qui ont fait des impressions de masques en 3D, des gels, etc. partout. Et il ne fait pas appel à la responsabilité des gens, le Premier ministre. J'ai trouvé ça, à condition de rester confiné, d'obéir. Mais je trouve qu'il y a, comment dire, un retour d'un État pseudo-stratège qui ne l'est pas. Et qu'aujourd'hui, il faut du management, de la réactivité, de la souplesse. J'aurais complètement insisté là-dessus. Alors maintenant, Valérie, vous demandiez pourquoi il a choisi cette date. Et je suis effondrée, mais j'ai l'impression que c'était parce qu'il y avait le pont du 1er mai, le pont du 8 mai. Parce qu'on en est encore là, en France. On en est au RTT, au pont.
Et non, c'est bien possible.
Là, il y a un pont. Et je trouve ça, mais surréaliste. Il y a effectivement des gens qui auraient dit « Ah ben non, c'est mes jours fériés ». Donc je crois qu'il faut dire à tous nos auditeurs que c'est de nous, ça dépend. J'entends presque Alexis qui ne parle pas, mais il y a une
mais
responsabilité.
Mais on va lui donner la parole, il est bien élevé, il respecte.
Une responsabilité des salariés eux-mêmes. Ce sont les salariés qui doivent se dire « Bon, d'accord, ils peuvent poser leurs vacances, partir, faire ce qu'ils veulent, mais en rentrant, ils risquent de ne pas retrouver leur boîte ». Donc c'est chacun d'entre nous et je trouve ça en même temps satisfaisant, c'est un effort personnel. Il y a des salariés mais exceptionnels, je tire mon chapeau, qui viennent le dimanche, qui veulent aider des gens qui étaient au contraire en retrait et qui ont voulu retourner à l'entreprise. J'ai un peu l'impression qu'on a trop donné l'impression au début aux gens que c'était facile, qu'il y avait un tiroir caisse, qu'on payait le droit de retrait, on payait le fait que vous êtes en chômage partiel, etc. On a peut-être été, alors c'est dur à dire parce qu'il y a des gens qui vraiment en ont besoin fondamentalement, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas un besoin vital et il va y avoir un coup de collier à donner pour tout le monde. Et ça, c'est passé aux oubliettes.
Mais là, vous répondez partiellement à la question. Je vois Brigitte qui nous dit, en gros, ils ont dit hier qu'ils ne savaient rien ni comment s'y prendre et si les hôpitaux ont réussi à faire à peu près face, c'est pas grâce à eux. Oui. Qui veut intervenir, François? Non, qui veut intervenir?
Là où je suis d'accord avec Sophie, je trouve que l'État est trop jacobin. C'est-à-dire François, que quand un maire veut distribuer François des masques, on l'interdit, on casse la décision du maire, et il faut faire confiance aux entreprises. La Cdiscount a annoncé ce matin qu'ils avaient 60 millions de masques, ce qui n'est pas illogique. Vous avez des boîtes dont le métier, c'est d'aller aux quatre coins du monde, tous les jours, chercher des produits partout, ils ont des acheteurs là-bas, Et je pense qu'on a trop voulu que l'État s'occupe de tout et réglemente tout. Il faut faire plus confiance aux collectivités locales. De toute façon, on n'a pas le choix.
Bien sûr.
Pour la mise en œuvre au quotidien et aux entreprises, je suis d'accord.
Alors, Carlo Luc, je vais vous donner la parole dans un instant. On n'a pas entendu Alexis, effectivement, Poulain.
C'est exactement ça. On ne comprend pas, personne ne comprend, en fait, cette volonté de tout centraliser, sachant qu'on n'en a pas les moyens. Pourquoi ne pas laisser faire les collectivités? Pourquoi on est allé réquisitionner des masques? Alors oui, parce qu'on gère la pénurie, mais on la gère de manière catastrophique. Ça veut dire qu'on prend dans la poche de Paul pour rhabiller Pierre, enfin, je ne sais plus comment on dit, et qu'on a un État, effectivement, faussement stratège, qui est là pour gérer la pénurie, qui le fait très mal, et qui empêche les pharmaciens, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas en distribuer.
Certains ont déjà
des masques. Les mairies, bien sûr, qui le font, qui n'ont pas attendu. Toutes les initiatives citoyennes qu'on voit de couturiers, couturières qui donnent des masques, des entrepreneurs aussi, qui ont commandé des masques, qui les donnent à leurs salariés, mais aussi aux gens à l'entrée des transports en commun et ailleurs, à Anthony et ailleurs. Les initiatives sont partout. Au lieu de coordonner et de partir sur ce qui est existant et de dire que oui, les masques, c'est utile, même s'ils sont faits maison, eh bien, c'est un bon début et les autres arrivent, eh bien, on fait semblant et on dit attendez, on n'est pas sûr. On avait encore ce matin Sibeth Ndiaye qui disait oui, les masques, on n'est encore tout à fait pas sûr. Si, on est sûr, les masques, ils sont utiles. Vous avez, alors comme elle dit, des problèmes de logistique. Simplement, vous n'avez pas démarré quand il fallait l'approvisionnement. Eh bien, on ne va pas vous attendre. Les Français ne vont pas vous attendre. Les Français en ont marre d'être en confinement. Ils en ont, que ce soit des entrepreneurs, les restaurateurs, mais aussi tout le monde. Ce n'est pas tenable d'être 2 mois en confinement. Alors, c'est tenable, si, parce que c'est la santé. Mais comprenez bien qu'à un moment, on ne comprend pas les injonctions contradictoires. Et effectivement, on ne comprend pas la date du 11 mai. On ne comprend pas pourquoi les masques ne sont toujours pas là. Vous vous rendez compte, cette présentation PowerPoint d'hier, le ministre de la Santé dit ces masques, vous les verrez bientôt. Bientôt. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de date, il n'y a même pas de plan de distribution de ces masques, pas plus que pour les tests. Il n'y a aucun plan. On nous dit fin avril, vous aurez le plan. La réalité, c'est quoi? C'est une grande improvisation. Et là, je suis désolé, on doit faire confiance aux citoyens, on doit faire confiance aux initiatives locales et les encourager. Et arrêter avec foutre des amendes aux gens parce qu'ils vont travailler, foutre des amendes aux gens parce qu'ils distribuent des masques. Ça suffit, c'est n'importe quoi cette façon de faire.
Oui. Les pharmacies, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, il y a des pharmacies qui ont beaucoup de masques mais qui n'ont pas le droit de les vendre. Donc même quelqu'un qui a été malade, qui sort de l'hôpital, qui vient demander un masque, on ne le lui vend pas. Ils ont des stocks de masques, il faut attendre le 11 mai pour dire, ah bah vous voyez, vous avez des masques. Carl Olive voulait intervenir.
Allez-y. C'est que au nom d'éthique, je suis au cœur du système, admettons qu'il y a un système, il n'y a pas de système, il y a des commissions, des chefs de commission qui sont nommés tous les jours, et je voudrais savoir si oui ou non nous pouvons importer des tests sérologiques pour nos salariés. Je n'arrive pas à avoir de réponse. On nous répète finalement, j'ai envoyé les tests à l'Institut Pasteur qui ne donne pas de réponse. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit. Et puis si le test n'est pas bon, c'est pas de votre faute. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas commandé. On n'arrivera pas à tester les gens. Dans des régions que je connais, comme la Savoie, la Haute-Savoie, il n'y a pas un endroit où on peut faire un test sérologique. Donc maintenant.
Vous avez remarqué qu'hier, dans le discours du Premier ministre, il y avait une espèce de message qui disait les tests, ça sert à rien, quoi. Une fois sur deux, ils sont faux. Donc est-ce qu'on va vivre avec les tests ce qu'on a vécu avec les masques? Pardon, Carl Olive, je vous donne la parole.
Et en même temps, il faut tester tout le monde.
Je voudrais juste peut-être recamper le décor. Moi, il se trouve que j'ai été réélu le 15 mars dernier, et le 16 mars, je ne me suis pas demandé, et je rejoins ce qui a été dit, je ne me suis pas demandé ce que l'État pouvait faire pour moi. Je me suis juste demandé ce que j'allais pouvoir faire pour mes administrés, et pardon de le dire, je l'ai fait en toute modestie, humilité. Et c'est vrai qu'on est au système des premières langues, et je m'en plains pas. Et je m'en plains pas parce que je m'aperçois qu'un mois et demi après, on est dans la vérité de ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, c'est typiquement, il y a 10 jours, j'ai commandé volontairement, et sans que personne me dise quoi que ce soit, des masques, et j'ai privilégié une production française, même si ça me coûte 75% de plus pièces pour commander des masques faits en France, dans le 95, avec une traçabilité que je vais pouvoir aller voir. On a mis en place notre réserve communale, notre réserve citoyenne, pour pouvoir aller faire les courses aux personnes les plus fragiles, pour pouvoir les appeler près de 4000
000 appels chaque semaine. Et puis de la même manière, je rejoins ce que dit Sophie de Menton, nos entrepreneurs se sont proposés de créer par exemple des masques avec des visières que nous avons acheminées auprès des hospitaliers. Et je pense que effectivement, on a constaté au fur et à mesure qu'il se mettait en place quelque chose qui a été rappelé hier lors de la conférence de presse, et moi je m'en félicite, c'est qu'enfin, on a une vraie relation de terrain avec le binôme maire-préfet. Faisons-nous confiance et faisons en sorte que nous faisions presque de la dentelle. On va bientôt arriver au déconfinement. Moi, je peux vous dire que d'ores et déjà, avec mes équipes, en lien avec l'éducation nationale et avec monsieur le préfet des Yvelines, nous avons des idées à échafauder, à co-construire ensemble, et pas dans l'exécution et dans la décision, à co-construire ensemble. Aujourd'hui, je constate qu'à Poissy, mais comme dans d'autres villes, nous avons d'ores et déjà des écoles qui fonctionnent pour accueillir les enfants du personnel soignant. Et ce qui est possible aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas à le mettre en place demain. Première chose. Deuxième chose, alors, peut-être, juste pour dire en revanche, moi je vois bien que le 11 mai n'est pas une date au hasard. Vu la culture, on ne peut pas dire qu'on ait une culture très disciplinée en France pour respecter précisément les règles. 1er mai, le pont. Les gens veulent sortir. 8 mai, le pont, les gens veulent sortir. À un moment, il faut y aller. Ben, le 11 mai est pour moi un impératif, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que effectivement, les enfants qui aujourd'hui sont confinés, Alexis Poulain le disait tout à l'heure, avec parfois des difficultés d'enseignement à distance, et pas que dans les quartiers populaires, vous avez parfois les deux parents qui travaillent, il faut qu'ils retournent à l'école, et ça met aussi en place quelque chose qui est sensible à Sophie de Menton, c'est-à-dire notre économie.
Oui, mais alors qu'est-ce qui a changé depuis le 18 mars ? Enfin, expliquez-moi, moi je n'ai toujours pas compris ce qui avait changé. Pourquoi est-ce qu'on a confiné pour au final nous dire le 11 mai que bah on déconfine et qu'on n'a toujours pas de masque et qu'on n'a toujours pas de test et qu'il va falloir faire les gestes barrières ?
On a désengorgé les urgences, les hôpitaux. Ah ben c'est majeur, c'est majeur.
Oui, mais d'accord, François.
Ben oui, mais c'est quand même majeur. On a évité la première vague qui était totalement hors contrôle, où tous les jours, vous avez des milliers de gens qui arrivaient aux urgences et les gens des urgences ne savaient pas où les mettre. Non, c'est quand même
majeur. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Et on est même allé plus loin. Et ben maintenant, il faut faire le mieux possible, retourner au travail, à l'école, au bureau, etc., progressivement, le mieux possible, en se protégeant et en surveillant comme le lait sur le feu les gens qui arrivent aux urgences. Ça va pas être facile, mais c'est progressif. Enfin, c'est ce que je retiens d'hier.
Mais est-ce qu'on va pas avoir une deuxième vague qui sera peut-être encore plus forte parce qu'on a bien senti que ce mouvement était comme une libération.
On est même allé plus loin. Valérie,
c'est pas ça.
Oui.
C'est progressif.
Oui.
Sur le désengorgement des urgences dont parle François Monbois, c'est Carlos qui parle là. On a mis en place, là encore, sur des initiatives, là en l'occurrence de médecins généralistes avec la ville et une passerelle avec l'hôpital, ce qu'on appelle des Covid Centers, où j'ai transformé une salle de fête de la ville de Poissy en grand centre médical. Bien nous en a pris, parce qu'en amont, ça a permis de désengorger les urgences. Et aujourd'hui, le résultat qu'on constate, et je le vois, parler de Poissy, mais j'ai eu les résultats ce matin, comme tous les matins et tous les soirs, 46 passages aux urgences, 9 hospitalisations sur les dernières 24 heures. On est vraiment sur le fait qu'on a beaucoup moins de fréquentation. Et tant mieux, évidemment,
parce qu'il y a eu un confinement qui a porté ses fruits.
Et qui porte ses fruits depuis exactement 12 jours, Valérie. Ce qui fait qu'on peut imaginer de passer à l'étape suivante, mais encore une fois, dans un cadre qui est bien donné. On a besoin d'un cadre au niveau du sommet de l'État, mais de grâce, il faut faire confiance aux experts de terrain, que ce soit les entreprises locales, les collectivités locales. On sait s'organiser, c'est comme ça qu'on fonctionne la République.
Alexis Poulain.
C'est de la subsidiarité, il faut de la subsidiarité dans ce déconfinement.
Oui, tout à fait.
Moi, le discours d'hier, j'ai pas vu très clair, justement. Vous parlez de clarté.
Mais c'est tout le problème.
C'est bien la problématique.
Non, mais à un moment, Alexis, le discours d'hier, il avait pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'on avait une conférence très longue pour nous expliquer qu'il faut faire des gestes barrières, que les masques, c'est un outil intéressant, que le virus, la connaissance scientifique évolue lentement, on ne sait pas tout, et que le plan, vous le saurez dans 15 jours. Donc c'est un teaser qui dure très longtemps et qui rajoute de la confusion, parce qu'on se dit, le 11 mai, on ne sait toujours pas comment ça va se passer. Et d'ailleurs, le Premier ministre le dit, on est en train de réfléchir, on va peut-être mettre une partie des élèves, une partie des profs, on verra, certaines écoles, pas d'autres. À un moment, soit on a un plan, soit on n'en a pas. Et autant attendre pour prendre la parole avec quelque chose de concret, avec des faits, avec des jalons, avec voilà comment ça va se passer, voilà ce qu'on vous demande de faire, plutôt que prendre la parole pour viser à quelques remontées dans les sondages en disant « Ah, l'exécutif gère pas mal », parce que finalement, c'est contre-productif. Là, comme Paul, en temps de crise, elle sert à rien. On a besoin de
comme Paul, c'est comme communication politique.
Oui, communication politique, parce que c'est ce qu'ils font là. La présentation PowerPoint, c'est très bien. On nous réexplique, comme à des enfants, ce qu'on sait déjà. Super. Mais maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est ce qu'on ne sait pas. Et là, je crois que c'est contre-productif de faire ces prises de parole, que ce soit les discours emphasés du président qui sort des dates comme ça. Alors effectivement, le 11 mai, on ne sait pas. Alors on suppute qu'effectivement, les Français, il y a des ponts avant, donc ils ne seraient pas très prêts à ne pas les avoir. Donc on dit le 11 mai, on est sûr au moins qu'ils restent chez eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi à ce moment-là, pas dire le 25 mai, le 30 mai? Enfin, et tout ça... manque de
clarté,
tout ça, manque de plan.
C'est vrai, mais un exemple précis. Ils m'ont dit, au nom des mouvements patronaux, dans différents ministères, parce que tout est interministériel, donc vous n'avez aucune décision. Le travail collabore avec la santé, qui collabore avec l'industrie, qui collabore avec Matignon. Donc personne ne décide, c'est interministériel. L'indécision est interministérielle. Indécision. Et ils ont dit, on va vous donner des protocoles. J'ai dit, mais attendez, vous plaisantez. Mais demandez-nous des protocoles. C'est exactement le contraire qui doit se passer. C'est l'État, j'ai entendu le Premier ministre qui aurait dit, voilà, je demande maintenant que des associations patronales, des associations me donnent un plan de leur déconfinement. Comment vont-ils s'y prendre? C'est ça le sujet. Et nous, on est en train de travailler là-dessus. Comment vont s'y prendre nos entreprises? Température le matin, etc. On fait des plans. Eux, ils ne savent rien et ils ne délèguent rien.
Et quand vous voyez qu'Angela Merkel a annoncé quand même un certain nombre, elle, de mesures en disant les surfaces de plus de 800 mètres carrés ne pourront pas ouvrir. Enfin, il y avait des choses un peu précises qu'on n'a pas. François Monbois,
ça tue. Oui, c'est bien, mais en même temps, il vaut mieux pas qu'ils soient précis parce que ils n'ont que des interdictions et des amendes à la bouche. Et tout est irrationnel. Je suis en train de travailler pour des instituts de beauté qui adhèrent à Éthique. Les coiffeurs sont ouverts, pas les instituts. Alors, ils sont en train de... C'est n'importe quoi. Je veux dire, je crois pas qu'il faille donner trop.
Mais c'est qu'on est trop jacobin, moi, je crois. C'est toujours ça.
Oui, c'est toujours ça, oui. Mais est-ce que ça peut changer, François Monbois?
Je pense que ce qu'a fait Macron, par contre, je ne suis pas d'accord avec Alexis Poulain de donner une date, c'est bien. Parce qu'effectivement, pourquoi le 11 et pas le 12, il n'y a aucune raison. Le 11 et pas le 25, il n'y a aucune raison. Sauf qu'à un bout d'un moment, il faut dire, allez, on essaie tous ensemble de retourner bosser. Et c'est ça que ça veut dire le 11. Et après, un plan national, il ne pouvait pas faire un plan national sur l'école. Parce que ça dépend de chaque école, de chaque ville, de chaque situation. Alors, ce qu'il aurait pu dire mieux, c'est je demande aux maires de travailler avec les directeurs d'école partout. Mais je pense qu'ils le font eux-mêmes. Mais on a un État qui est centralisé. En ce moment, Blanquer est obligé de négocier avec les syndicats au niveau national le retour au travail. Mais c'est pas ça qui va décider. C'est dans chaque ville les situations de chaque école primaire ou maternelle.
C'est vrai c'est
vraiment la culture du pays, ça.
Chacun va se débrouiller, pour ne pas dire un gros mot. C'est comme pour les EHPAD. Aujourd'hui, on peut aller dans les EHPAD, sauf que les EHPAD n'ont pas forcément aujourd'hui les moyens de le faire, ni n'ont pas forcément.
Oui, mais c'est à l'EHPAD.
Oui, mais on est obligé de faire ça. Un EHPAD qui a un grand jardin et qui peut accueillir des familles.
Bien sûr. Non, mais je suis d'accord.
Un EHPAD,
je suis complètement d'accord.
C'est plus compliqué. On est obligé de décentraliser et c'est pas notre culture.
D'accord, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio et on vous attend 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Je suis avec François Monboise, président de la FEVAD, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, Karl Olive, maire de Poissy, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique. On a une auditrice en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour
c'est
à tout
Nadine,
monde.
Bonjour Nadine.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
Voilà.
Alors moi, je vis
vous
à la
appelez
campagne.
De Meurthe et Moselle.
C'est ça, moi je vis à la campagne, je suis bien contente de vivre à la campagne d'ailleurs, parce que le confinement, même si ça me pèse, c'est quand même plus aisé et plus mieux. Mais moi je voulais revenir sur l'État qui ne sert à rien. On s'aperçoit que voilà, ils font de la com, hein, ça ils savent bien. Mais alors pour les actions, et en plus, ils bloquent les autres. Je veux dire, quand il y a une initiative d'une collectivité ou je sais pas quoi, ils bloquent. Alors, on comprend pas. que les collectivités, ils ont réussi à avoir des masques qu'eux, ils n'arrivent pas à commander. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Moi, franchement, c'est une question que je me pose. Par contre, ils arrivent à commander des drones. Moi, franchement, je commence à me sentir comme David Vincent dans Le Prisonnier. À part la répression et la communication, c'est tout ce qu'ils savent faire. On s'aperçoit de ça, quoi.
Vous avez regardé le Premier ministre hier?
Non, écoutez, franchement, là, il me gaffe tellement que je me dis de toute façon, voilà, puis de toute évidence de ce que vous avez dit, il n'a pas dit grand-chose. Donc après, les gestes barrières, il y a la pub tous les jours à la télé, ça repasse en boucle, hein, et puis tout le monde les connaît, quoi. Donc, enfin, je veux dire.
Voilà. Il y avait quand même 12 millions de personnes, puisqu'on vient d'avoir les audiences des chaînes d'info, 12 millions de personnes qui ont regardé le président de la République. Oui, enfin, vous n'êtes pas obligé, il y a d'autres choses à regarder.
Moi, franchement, je ne peux plus,
Moi, vous dites quoi? Il n'y a pas de réponse concrète et ils font de la
com. Non, il n'y a rien. Il y a un État qui vole à vue, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il veut nous emmener, c'est pas rassurant. À part des lois pour le travail qui sont déjà bien mises en place dans la loi sanitaire, et ça ça c'est pas normal que ce soit toujours aussi les mêmes qui payent et qu'on demande rien à la finance. Enfin bref, on s'aperçoit que c'est toujours pareil. Les jours heureux et je sais pas quoi de Monsieur Macron, à mon avis, ça va être plutôt les jours de labeur. Donc
On vous entend, Nadine. Merci de nous avoir appelé. Il y a eu beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens hier, de gens un petit peu déçus de ne pas avoir de choses plus précises. Donc, est-ce que d'un point de vue il a eu raison de s'exprimer hier, parce qu'il y a eu une attente très très forte. 12 millions, là, le chiffre vient de tomber. C'est énorme.
Je pense que les Français ont besoin aussi d'avoir une espèce de vulgarisation de messages et un niveau d'information qui soit le même pour tout le monde, ce qui évite derrière de partir dans tous les sens. Je voulais dire aussi que ce serait mentir que de dire que nous sommes sur le terrain lâchés en rase campagne. Il faut que j'ai deux trois conférences téléphoniques avec les ministres, mais pas seulement moi, puisqu'on est une vingtaine de maires, encore une fois, de toute sensibilité chaque semaine. Donc on arrive malgré tout à faire remonter un certain nombre d'informations. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on ne pourra rien faire sur la rentrée des classes si ce n'est pas une co-construction que nous appelons de nos voeux, avec évidemment une confiance que nous appelons les uns les autres pour faire en sorte que ce qui est possible à Poissy, elle est peut-être un petit peu moins au fin fond du Cantal. Et c'est cette différenciation qui nous permettra d'avancer. Sinon, on ne s'en sortira pas, mais on ne s'en sortira pas après le 11 mai, pas plus qu'à la rentrée. Il ne faut pas rêver par rapport à ça. Il y a une telle sensibilité, une telle, encore une fois, fragilité de la population française aujourd'hui, je crois que ça a bien été verbalisé par Sophie de Menton en début d'émission, qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit très vigilant. On a certainement besoin d'un cadre parce que c'est notre culture.
Oui, on a une auditrice qui nous dit les restos ne sont pas ouverts, les théâtres, les cinémas. Qu'est-ce qui va se passer également? C'est vrai que les restaurateurs sont effectivement très impactés et ça va être le cas pour toutes les salles de spectacle. Donc comment tout cela va évoluer? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il y a vraiment le débat sur les restaurants, Sophie.
Oui, alors je pense qu'on est en train justement, encore une fois, on a Didier Chenet qui est président de la Fédération des restaurateurs. Ils sont désespérés parce que il y a les loyers à payer, plus de clients, etc. On est en train de demander, et ça c'est la même chose, comment est-ce que c'est pas réglé dans l'heure? Si les restaurateurs peuvent vendre, par exemple, il y a un restaurant italien, est-ce qu'ils peuvent vendre des pizzas? Est-ce qu'ils peuvent vendre des plats préparés? On rentre un par un comme dans une épicerie. Est-ce qu'ils peuvent vendre de la nourriture? Mais personne, il y a une vacuité. Alors, on est obligé de demander parce que sinon on a des amendes. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il n'est pas très raisonnable d'ouvrir des restaurants parce que c'est vrai qu'il y a une promiscuité, c'est vrai qu'il y a les gens qui préparent la cuisine, etc. Enfin, c'est un lieu qui me semble assez propice à la contagion. Donc, malgré mon désir de voir tout ça repartir, je suis contre. Par contre, vendre des plats préparés, oui. Mais qui va nous répondre? Je suis en train de chercher aujourd'hui, je lance un appel au sein des ministères. qui va répondre à cette question ? Est-ce que oui
Mais c'est
ou
fait
non ?
Déjà, Sophie, sur le terrain ? Les restaurants sont proposent des plats emportés, des repas emportés, des formules complètes. Et encore une fois, est-ce qu'il faut systématiquement la validation de l'État par rapport à ça ? Moi, si jamais je vais voir mes restaurateurs de ma ville de Poissy et qu'on vient les contrôler pour savoir s'il y a une autorisation officielle, ah bah oui, ils vont se manger les doigts. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas les repas à distance et les repas qui sont emportés alors qu'on autorise l'ouverture des boulangeries et des artisans boulangers. Tant mieux.
Je suis d'accord, mais la logique est absente de cette autorisation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment qu'il y en a qui le font, et il y a le type qui le tabac, il vend un café qui va faire à côté, comme ça les gens vont dehors boivent leur café avec leurs journaux. Bon, il y a des systèmes intelligents qui sont pas dangereux. Si c'est pas dangereux, réfléchis avec du bon sens, évidemment. Mais on peut pas, quand on est président, par exemple, du syndicat des restaurateurs, on n'a pas de réponse réelle. Est-ce qu'on a le droit?
On a Jean en ligne, on a un auditeur, Jean, qu'on connaît bien, qui est restaurateur à Longjumeau. Ah, bonjour oui. Jean, comment ça va?
Ben, ça va très bien. Alors déjà, Didier Chenet n'est pas restaurateur, hein, donc il est président de syndicat, mais il y a longtemps qu'il n'a pas d'affaires et je pense pas qu'il est en difficulté, bravo à mon sens. Donc le problème de la restauration, c'est comme a dit, qu'est-ce qu'a dit le Premier ministre, hein, ben, on va pas vivre comme avant, hein. Donc nous, on va pas travailler comme avant. Et aujourd'hui, nous sommes perçus comme tout, comme ça, une salle de spectacle ou tout endroit où on va confiner les gens. Si on va nous donner l'autorisation, je ne sais pas dans combien de temps, puisqu'on n'a pas de, on n'a pas d'horizon pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on est perçu comme un endroit où effectivement les gens vont être proches les uns des autres. C'est le principe d'un restaurant, d'un bar, d'une discothèque et tous les endroits où il se passe quelque chose en commun. Donc on est en train d'élaborer à la demande du gouvernement un plan de réouverture. Je souris parce que ce plan de réouverture est assez totalement à l'opposé de ce qu'est un restaurant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir, si vous avez une salle de 50 places, il va falloir en faire 25. Il va falloir que les gens mettent des masques, il va falloir prendre la température en arrivant, il va falloir qu'ils se lavent les mains, il va falloir plein de choses.
Ben voilà.
La convivialité, évidemment, n'est pas possible. Aujourd'hui, il reste, pour travailler un peu, et c'est autorisé de faire de la vente emportée, bien sûr, simplement, si on nous ouvre à moitié de travail pour 100% de charge, pense que l'avenir est pire que le confinement. Voilà, donc je pense qu'un restaurant refonctionnera et on revivra, normalement, malheureusement, que quand on aura un vaccin... nous immunisera de cette saloperie de virus qui effectivement tue des gens en fonction de leur ADN.
C'est pas
pour tout de suite. Dans l'immédiat, aujourd'hui, si on nous réouvre, on va être dans des conditions qui sont à l'opposé de ce qu'est un restaurant. C'est-à-dire,
Je vous dis,
50% d'activité, voire moins, pour 100% de charge, parce que ou alors il va falloir
qu'on pourra pas faire 100%.
Voilà, pas tous en même temps.
Ce film Menton est très énervé.
Voilà. Merci Jean. Juste ce tweet de Françoise Degois qu'on connaît bien sur Sud Radio. Vraiment, c'est incompréhensible. Les masques sont distribués gratuitement en Espagne, au Portugal, et je ne parle pas de la Grèce, de la Pologne. En Italie, ils sont donnés aux voyageurs dans les aéroports. Mais que se passe-t-il en France? Que se passe-t-il? Peut-être qu'André Bercoff réagira à cette question. Moi, je ne comprends pas non plus. Hier, quand le Premier ministre a dit les masques, on a fait venir des masques. Oui, les entreprises privées ont fait venir des masques. Le gouvernement aussi, mais je pense que il en manque encore beaucoup, beaucoup de questions et on aura le temps d'y revenir. La semaine ne fait que commencer. Merci à tous les quatre et très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. André Bercoff, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. À tout de suite.